Depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, l'accueil diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président Joko Widodo a souligné le dialogue comme solution au conflit du Moyen-Orient. Selon le ministre de l'Industrie, l'exposition Manufacturing World Osaka 2024 est l'occasion pour l'Indonésie de présenter les progrès industriels. L'ambassade d'Indonésie à Paris a présenté le travail des designers indonésiens à travers l'affaire de l'archipel. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le président Joko Widodo a souligné l'importance d'une approche douce et du dialogue pour résoudre le conflit au Moyen-Orient, notamment en Palestine, à Gaza, au Liban et en Israël. Cette déclaration a été faite par le président Joko Widodo après avoir dirigé la cérémonie du 79e anniversaire du TNI dans la zone du Monument National, le centre de Jakarta, samedi le 5 octobre 2024. Selon le président Joko Widodo, une bonne réunion et communication entre toutes les parties impliquées sont la clé pour éviter une nouvelle escalade du conflit. Selon lui, tout doit être résolu à la table de négociation. Le président a souligné que tous les pays devraient s'engager à ne pas aggraver le conflit et s'efforcer de garantir que le dialogue reste une priorité pour trouver une solution pacifique dans la région. Le président a ajouté que la position de l'Indonésie jusqu'à présent était cohérente d'encourager la paix au Moyen-Orient par la diplomatie et la médiation, conformément au principe d'une politique étrangère libre et active. Le ministre de l'Industrie, M. Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré que l'exposition Manufacturing World Osaka 2024 au Japon était l'occasion pour l'Indonésie de montrer les résultats de l'innovation des acteurs industriels nationaux sur le marché international. Le ministre, dans sa déclaration à Jakarta vendredi 4 octobre, a déclaré que lors de l'exposition qui a eu lieu de 2 au 4 octobre, son parti a facilité la présence de 10 entreprises industrielles nationales résultant de la collaboration avec l'ambassade de la République d'Indonésie au Japon, ce qui devrait constituer une étape stratégique pour accélérer l'avancement du secteur manufacturier. Pendant ce temps, le directeur général par intérim de la Résilience de l'accès industriel régional et international, M. Eko Cahyanto, a déclaré que la participation de l'Indonésie à cette exposition faisait partie d'une grande stratégie visant à renforcer sa compétitivité et sa position sur le marché mondial. Cela doit être fait parce que les défis mondiaux tels que le changement climatique, l'incertitude économique et les perturbations technologiques ont changé le paysage industriel à travers le monde. L'ambassade d'Indonésie a mis en valeur la beauté et la créativité des créateurs indonésiens à travers le défilé de mode qui a eu lieu à Paris, la France. L'ambassadeur d'Indonésie en France, M. Muhammad Umar, dans un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Paris, a déclaré vendredi que l'Indonésie compte de nombreux créateurs talentueux potentiels, mais que très peu ont l'opportunité d'apparaître au centre de la mode mondiale. À travers cette activité, l'ambassade d'Indonésie à Paris souhaite permettre à de jeunes créateurs indonésiens talentueux d'apparaître à Paris, une ville qui est le centre de la mode mondiale. Selon Umar, la fête de l'archipel est une activité promotionnelle intégrée visant à accroître l'image positive de l'Indonésie aux yeux de la société française et améliorer les relations bilatérales entre les deux pays. Le défilé de mode a présenté le travail de 12 jeunes créateurs indonésiens, y compris Adia Lavani, Ayudhya Andari, Christine Wu, Jewel Rock, Makin Nada Puspita et Zeta Priv. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan, a demandé aux pays qui ont exprimé en privé leur volonté de reconnaître un État palestinien indépendant de le faire ouvertement. Le prince Faisal bin Farhan a rapporté Al-Arabiya samedi 5 octobre, exhorte les pays qui ont été privés à prendre publiquement cette mesure importante. Il est temps de se placer un bon côté de l'histoire. Il a déclaré cela quelques jours après que le prince a annoncé le lancement d'une nouvelle coalition internationale pour travailler à la mise en œuvre de solutions à deux États, après des décennies d'efforts internationaux infructueux. L'Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États a été officialisée lors du discours du prince Faisal bin Farhan lors d'une réunion en mars de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière à New York, qui comprend la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique et Norvège. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a affirmé que la force de maintien de la paix au Liban poursuivra sa mission. Lacroix, aux journalistes lors d'une conférence de presse au siège de l'ONU à New York, a cité par Antara vendredi, a déclaré que la force de maintien de la paix de la FINUL, ou force intérimaire des Nations Unies au Liban, se sont obligées de continuer. Malgré les nombreux défis, selon Lacroix, la mission de maintien de la paix se poursuivra et s'assurer que les plans d'urgence sont prêts à tenir à jour. Il a souligné qu'en raison des combats en cours, il est très difficile de juger avec certitude comment les choses vont évoluer. Le Liban a reçu une assistance médicale de l'Organisation mondiale de la santé et du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés vendredi 4 octobre au milieu des attaques israéliennes en cours. Anadolu a rapporté que les livraisons de l'aide sont arrivées à l'aéroport international Rafik Hariri à Beyrouth et a été reçue par le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad. Le représentant de l'OMS au Liban, Abdel Nasser Abu Bakar, et le représentant de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Ivo Freshen. Le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad, a déclaré que des routes aériennes humanitaires avaient été ouvertes depuis les Émirats Arabes Unis avec un avion transportant 55 tonnes d'aide arrivant vendredi et des avions supplémentaires en provenance de Slovaquie, de Pologne et d'autres pays devraient arriver prochainement. Le représentant de l'OMS, Abu Bakar, a déclaré que la première livraison comprenait des fournitures médicales pour aider les hôpitaux à faire face au nombre croissant de victimes. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique L'accueil diplomatique. Intitulée « Célébrer la journée nationale du batik », l'ambassade d'Indonésie à Caracas ouvre un cours de batik pour le peuple vénézuélien. Coïncidant avec la journée nationale du batik le 2 octobre 2024, l'ambassade d'Indonésie à Caracas, en collaboration avec le Chanting Club Venezuela, a organisé un cours de batik pour la communauté vénézuélienne dans la salle de l'ambassade d'Indonésie à Caracas. Cette activité a été participée par 25 participants, vise à présenter le batik comme l'une des identités de la nation indonésienne au peuple vénézuélien, ainsi qu'à renforcer les relations diplomatiques dans le secteur culturel entre l'Indonésie et le Venezuela. L'activité a été ouverte par l'ambassadeur d'Indonésie à Caracas, Monsieur Imam Edi Mulyono et Angela Mata, en tant que professeur de batik. Dans son discours, l'ambassadeur Imam a déclaré que le batik était une combinaison d'art et de culture très mondiale. L'un des efforts de l'ambassade d'Indonésie à Caracas pour promouvoir le batik cette année consiste à inviter 4 créateurs de mode batik à exposer leur travail à travers un défilé de mode à Caracas en mai 2024. L'ambassadeur Imam Edi Mulyono espère qu'à travers cette activité, l'amitié et la coopération entre l'Indonésie et le Venezuela se resserreront. Ce cours de batik se déroule en octobre 2024 et sera divisé en 8 classes. Dans ces cours, les participants seront introduits à l'histoire de batik, aux méthodes de fabrication de batik et au processus de fabrication de batik, de dessin à devenir une belle œuvre d'art de batik. À la fin de l'activité, les participants au batik devraient pouvoir exposer leur travail dans l'un des musées de Caracas afin qu'ils puissent être largement appréciés par la communauté locale. Chers amis, c'était l'accueil diplomatique de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Oh,
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 5 octobre qui sont commémorés comme l'anniversaire de l'armée nationale indonésienne. L'armée nationale indonésienne ou TNI a connu une longue période d'efforts pour obtenir et maintenir l'indépendance de la République d'Indonésie. Le TNI est né avec le peuple lors de la lutte contre les colonialistes néerlandais. La commémoration de la journée de l'armée nationale indonésienne est basée sur la fondation de l'armée populaire de sécurité le 5 octobre 1945. Le gouvernement indonésien a formé l'armée populaire de sécurité du TKR en réponse à l'arrivée des troupes britanniques en Indonésie après la capitulation inconditionnelle au Japon face aux alliés. L'arrivée des troupes britanniques est utilisée par les néerlandais comme une porte pour recoloniser l'Indonésie. L'armée de sécurité populaire s'appelait auparavant l'Agence de sécurité populaire. Le nom l'armée nationale indonésienne a été utilisé après son inauguration par le président Sukarno le 3 juin 1947. En 1962, la Polri et la TNI ont fusionné pour devenir les Forces armées de la République d'Indonésie, ou ABRI. Le nom TNI a été réutilisé le 1er avril 1999 avec la séparation du TNI et Polri. Le 5 octobre est célébré comme la Journée mondiale des enseignants, citant le site officiel de la Direction des enseignants de l'éducation de base du ministère de l'Éducation et de la Culture, l'UNESCO a institué la Journée mondiale des enseignants le 5 octobre 1994. Mais en fait, la proposition d'établir une journée commémorative est proposée depuis 1966. La proposition vise à fournir des orientations des enseignants du monde entier, à expliquer les responsabilités et renforcer les droits des enseignants. L'Indonésie commémore également la Journée nationale des enseignants chaque 25 novembre. Le 5 octobre 1991, le crash de l'avion TNI AUC-130. À l'occasion du 46e anniversaire du TNI, le 5 octobre 1991, alors qu'il s'appelait encore ABRI, un avion C-130 Hercules appartenant à l'armée de l'air indonésienne s'est écrasé dans la région de Condet, à l'est de Jakarta. Cet accident a tué 133 militaires, donc équipage de l'avion et un agent de sécurité du centre de formation professionnelle. L'avion avec le numéro de queue AS-1324 s'est écrasé peu après son décollage à l'aéroport de Jakarta Halim Perdana Kusuma en raison d'un incendie moteur. Ce malheureux incident s'est produit à 15h, heure de l'Indonésie occidentale, après la cérémonie de l'anniversaire de l'ABRI. L'avion C-130 Hercules s'est écrasé avec le cockpit orienté vers le nord. Le nez et une partie de la zone avant sont tombés dans la salle du centre de formation professionnelle, tuant un agent de sécurité. Le 6 octobre 1991, toutes les victimes de crash de l'avion C-130 Hercules ont été inhumées au cimetière Bahagia Abri Pondok Aren, Ciledug, Tangerang, et cet accident est considéré comme l'un des pires accidents de l'histoire indonésienne. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Ku tahu
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter l'Indonésie renforce sa position dans l'industrie 4.0 à travers une exposition internationale au Japon. L'Indonésie continue de renforcer sa position dans la mise en œuvre de la technologie industrielle 4.0 et de la fabrication intelligente. Cette fois, l'Indonésie a participé au prestigieux événement international Manufacturing World Osaka 2024 qui a lieu à Intex Osaka, le Japon, de 2 jusqu'à 4 octobre 2024. 10 entreprises industrielles indonésiennes ont participé à cette exposition soutenue par le ministère de l'Industrie. Dans un communiqué de presse reçu vendredi, le ministre de l'Industrie, M. Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré que cette exposition était un élan important pour l'Indonésie pour montrer les progrès dans le domaine de l'industrie 4.0. Il espérait que cette participation pourrait élargir l'accès au marché mondial et encourager la collaboration internationale, notamment dans la région asiatique. Agus Gumiwang a souligné que cela fait partie de la stratégie indonésienne visant à renforcer la compétitivité de l'industrie nationale, notamment au milieu de défis mondiaux tels que le changement climatique et l'incertitude économique. Manufacturing World Osaka est l'un des plus grands salons de l'industrie manufacturière au Japon, avec plus de 1200 entreprises de divers pays participants. Cette exposition couvre divers secteurs industriels tels que la conception manufacturière, les composants mécaniques, les dispositifs médicaux, l'intelligence artificielle et Internet des objets. Cet événement a également assisté par environ 35 000 visiteurs des milieux industriels. Dans cette exposition, l'Indonésie apporte l'innovation d'entreprises célèbres telles que PT Technology Indonesia, PT Sat Nusa Persada TBK et PT Global Success Solution. La superficie du stand indonésien atteint 81 mètres carrés, présente diverses technologies de pointe qui attirent l'attention des participants internationaux. Le premier jour de l'exposition, on a également organisé un forum d'affaires sur le thème « Un aperçu de la fabrication de pointe en Indonésie ». Ce forum a réuni plus de 100 participants de divers cercles, y compris des représentants d'entreprises, des universitaires et des acteurs de l'industrie. Avec la présence de l'Indonésie à cet événement, on espère que de nouvelles opportunités de coopération ouvriront dans le secteur d'investissement, de recherche et de développement, et aussi de commercialisation des produits industriels indonésiens sur le marché mondial. Chers amis, c'était la rubrique Monde Indonésie.
Voice of Indonesia.
Langkah kedua. La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, l'emplacement de la plage de Torong Hudan est caché derrière les champs et les rizières des habitants. C'est la nouvelle plage. Cette plage, située au village de Kanigoro, sous-district de Saptosari, district de Gunung Kidul, région spéciale de Yogyakarta, est l'une des préférées des pêcheurs. L'une des raisons pour lesquelles peu de gens viennent visiter cette plage est son emplacement éloigné et son accès routier qui n'est pas facile. Les véhicules ne peuvent arriver qu'au refuge. Le reste du temps, les visiteurs doivent traverser des champs ou des rizières sur une route raide, montante et descendante pendant environ 10 à 15 minutes jusqu'à la plage. Chers auditeurs, dès que vous entrez dans la zone de la plage de Torohudan, vous serez accueillis dans une atmosphère fraîche grâce aux arbres qui poussent autour et à la vue sur l'eau de mer bleue apaisante. De chaque côté de la plage se trouvent deux falaises qui encadrent cette plage. Le sable est blanc et a tendance à être rougeux. Les vagues sont calmes, sans danger pour nager ou simplement jouer dans l'eau sur la plage. Le bruit apaisant des vagues, la vaste étendue de sable et la douce brise marine créent véritablement une sensation de paix. La beauté naturelle de la plage est époustouflante et agréable à regarder, ce qui a un effet positif sur la santé mentale et physique. De falaises et d'arbres verts, elle ajoute à la beauté de la plage. En vue de prendre des photos, les visiteurs de la plage de Torohudan peuvent également profiter de diverses activités intéressantes telles que la natation, les jeux dans l'eau et le camping. La plage de Torohudan est également un endroit idéal pour profiter de la beauté de la plage en campant sur la plage et en profitant de la beauté naturelle la nuit. En dehors de cela, la vue sur le coucher de soleil sur la plage de Torohudan est très belle et romantique. Si vous souhaitez visiter cette plage, les visiteurs doivent emprunter des sentiers et des rochers assez raides et extrêmes et prendre du temps car ils nécessitent de la prudence. Cependant, le voyage difficile ne sera pas vain lorsque vous atteindrez la plage, car vous découvrirez la beauté d'une très belle plage. Il est préférable d'éviter de venir à la plage de Torohudan pendant la saison des pluies, car l'accès y est assez difficile. Chers auditeurs, la plage de Torohudan est unique et magnifique. Elle se trouve à environ 50 km du centre de la ville de Yogyakarta. Elle peut être atteinte en véhicule privé. Cette plage est très appropriée comme destination pour les touristes à la recherche de tranquillité et d'une expérience touristique exotique à Yogyakarta.
Terima kasih. What you gonna be kalau kamu lagi sedih? Pacar kamu pergi jadi sakit hati.
We call a break, let's celebrate. The only Eka Gusi Wanda. It sounds so great and I can't wait. It makes me feel just wanna. Let's jump in.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis de quatre coins du monde, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Biosferon. L'événement de tourisme sportif Biosferon, organisé par l'Agence de mise en œuvre de l'autorité de Borobudur ou BPOB, aura lieu le 13 octobre 2024 au sein du village de Pagerharjo, Yogyakarta, dans le but de promouvoir la recherche de biosphère dans la zone touristique de Borobudur. Le directeur principal de l'Agence de mise en œuvre de l'autorité de Borobudur, Agustin Muarinangin, a déclaré que la zone touristique de Borobudur possède de nombreux patrimoines mondiaux, tels que les temples de Borobudur et de Prambanan, puis un géoparc et aussi une réserve de biosphère. Il existe deux réserves de biosphère dans la zone touristique de Borobudur qui ont été désignées par l'UNESCO, à savoir Merapi, Merbabu et Menoreh, ainsi que Karimun Jawa et Jepara Muria sur la côte nord de Java. La zone d'autorité de Borobudur est incluse dans cette zone. Agustin Warinangin a déclaré que Biosferon était un développement de l'événement Forest Run organisé par l'Agence de mise en œuvre de l'autorité de Borobudur en 2022 et 2023. Si lors des deux événements précédents, les participants ne couraient que dans la zone autoritaire, l'Agence de mise en œuvre de l'autorité de Borobudur, dans Biosferon, la zone a été élargie. Grâce à cet événement de tourisme sportif communautaire, on espère pouvoir présenter la zone de la biosphère Merapi Merbabu Menoreh entang ke destinasyon turistik. Un autre, on espère que cet événement aura également un impact positif sur l'économie locale, car il implique les communautés locales, notamment dans les villages touristiques qui font partie du parcours de la compétition. Biosphérane propose des parcours de cours à pied en trois catégories, à savoir 5 km, 10 km et 21 km. Dans la catégorie 10 km, les participants passeront par le glamping area, qui est l'un des espaces phares de BPOB. Les participants parcourront un parcours difficile mais frais, parce que cette zone est riche en végétation haute et ombragée. Cet événement débute le 13 octobre à 7h du matin, heure locale. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bisikkanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Senyum jadi senjata. saja.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, nous vous présentons la chanson de Keroncong intitulée Kopral Jono, chantée par Tuti Mariati. Kopral Jono est une chanson composée par le héros national Ismail Marzuki et chantée par Henny Purwonegoro. Elle était très populaire dans les années 60. C'est une chanson humoristique qui a plusieurs significations. Cette chanson peut également signifier la proximité entre l'armée et le peuple. Cette chanson raconte d'un membre de l'armée nationale indonésienne, ou TNI, avec le grade de caporal qui est beau et captive le cœur des femmes. Son style charmant et son attitude amicale ont rendu toutes les bonnes filles du village à la ville folle de lui. Bon, chers auditeurs, voici Tuti Mariati, dont le titre est Kopral Jono. Bonne écoute!
Kopral Jono, gadis mana yang tak kenal akan dikau. Oh, Kopral Jono, gadis mana yang tak rindu akan dikau. Gayamu yang perkasa, mirip gaya panglima, ramah tamamu membikin hati wanita. Kopral Jono, Kopral Jono, Kopral Jono, Kopral Jono. Jono, gadis mana yang tak kenal akan dikau. Kopral Jono, gadis mana yang tak rindu akan dikau. Gayamu yang perkasa, mirip gaya panglima, ramah tamamu Kopral Jono, Kopral Jono, Kopral Jono, Kopral Jono.
Voice of Indonesia.
Ku petik gitar untuk melupakan cerita lama. Tak juga silam. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Pergi. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu pahit.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.